Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, j'adresse mes remerciements à l'IFE, Monsieur Lusso, à Sabine Coste aussi de m'avoir invité à ce moment un peu d'échange avec vous pendant ces trois jours. Alors, le plaisir est d'autant plus grand que je sais qu'en ce qui concerne l'enseignement professionnel, il y a forcément des passionnés. Et donc, ça va être effectivement trois jours extrêmement fructueux, me semble-t-il, entre passionnés de l'enseignement professionnel, parce que pour traiter de l'enseignement professionnel, il faut aimer l'enseignement professionnel et il faut être passionné par tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y passe. Et je pense que c'est un pan de notre système éducatif sur lequel on ne peut pas rester en dehors, dans l'observation. Il faut effectivement l'immersion, il faut également être au contact de tout ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, on l'est dès qu'on est arrivé aujourd'hui, puisque effectivement, notre section de baccalauréat accueil, tout de suite était là en face de nous, ces jeunes que l'on peut questionner sur leur diplôme intermédiaire, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils veulent faire après. Et c'est extrêmement intéressant et très chaleureux. Alors évidemment, ma frustration va être grande. Elle est à la hauteur du programme qui vous a été donné, puisque je dois repartir sur Paris donc dans l'après-midi. Au départ, j'avais prévu trois jours, mais il y a une loi sur la refondation de l'école qui se fait un peu en ce moment, qui est en train d'être débattue à l'Assemblée nationale, et donc on doit être un petit peu sur le pont pour traiter des amendements, etc. Mais on pourra peut-être y revenir. Autre point, c'est que je n'ai pas de béquille vidéo projetée. Je vous infligerai pas peut-être un PowerPoint, ça sera un écran bleu, je sais pas ce que ça peut évoquer, chacun y mettra ce qu'il veut. Par contre, vous aurez le texte de mon conducteur, effectivement, sur l'espace que vous avez prévu à cet effet. D'accord. Donc ça, il y a pas de souci là-dessus. Alors, ce thème m'a paru extrêmement intéressant. Parce que je trouve que interroger le bac pro 3 ans, on le fait très souvent, on le fait de manière institutionnelle et haute, mais l'interroger du point de vue des pratiques, des acteurs complètement impliqués dans ce bac pro 3 ans, c'est-à-dire les enseignants et les élèves, j'ai trouvé ça très riche, d'autant plus que ça rejoint un peu une problématique que l'on a de plus en plus lorsqu'on veut étudier l'enseignement professionnel, c'est partir un petit peu du point de vue des acteurs. Et non pas en rester à des visions un peu macro-éducatives fixées sur nos statistiques globales. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de savoir réellement ce qui s'y noue et ce qui s'y passe. Je vais vous imposer une petite auto-présentation, non pas que je fasse preuve d'un narcissisme mal placé, mais simplement, effectivement, les quelques missions que je conduis à l'inspection générale portent les questions que vous aurez aussi à traiter pendant ces trois jours. Alors, première chose, donc je suis depuis le 1er janvier assesseur du doyen de l'inspection générale et assesseur en charge, on va dire adjoint, en charge des parcours et de l'enseignement professionnel. Ça veut dire que l'inspection générale s'est réorganisée depuis janvier en trois grands pans intellectuels. On parle de magistère intellectuel, dixit le ministre. Et ces trois pans sont la scolarité obligatoire, de la maternelle et le primaire. Et ensuite, on a le moins 3 plus 3, c'est-à-dire les poursuites d'études et autres, le lycée. Et puis, il y a un troisième pan qui concerne spécifiquement l'enseignement professionnel. Donc, on voit bien que l'inspection générale a décidé, effectivement, de construire une espèce d'unité de réflexion intellectuelle sur ces trois grands champs qui intéressent d'ailleurs le ministre et bien évidemment, au premier lieu, qui se figure dans la loi de refondation sur l'école. Alors, en tant qu'assesseur, effectivement, c'est quelque chose de très, très important. Parce que ça fait suite à quelques années où j'ai été pilote d'un groupe à l'inspection générale sur l'enseignement professionnel qui réunissait toutes les disciplines. Auparavant, on avait tendance à penser que l'enseignement professionnel, c'était deux grands groupes disciplinaires à l'inspection générale, j'allais dire l'économie-gestion pour tout ce qui est le tertiaire, et puis les sciences et techniques industrielles pour ce qui était industriel. Eh bien, on avait décidé depuis quelques années, et ça se renforce maintenant, de dire non, il y a l'histoire-géographie, il y a les mathématiques, il y a les lettres, il y a l'EPS, etc., qui doivent participer à la réflexion globale sur l'enseignement professionnel. Et cette dynamique de réflexion est en train vraiment de prendre corps, et elle prend encore corps un peu plus, puisque je suis maintenant chargé de l'impulser. D'autres choses qui sont intéressantes, c'est que j'ai été aussi pilote d'une mission d'évaluation sur la certification intermédiaire ou diplôme intermédiaire ou BEP rénové, peu importe les appellations. et donc le dernier rapport de l'inspection générale qui portait là-dessus. Alors pourquoi c'est intéressant pour les pour vos travaux? C'est parce que le diplôme intermédiaire, si vous lisez bien le rapport, ce que je ne doute pas pour certains d'entre vous, porte toutes les questions sur la réforme du bac pro 3 ans. Toutes les questions en germe figurent effectivement dans les interrogations qu'on a sur le diplôme intermédiaire. Sabine Cosse l'a mentionné effectivement dans son introduction. Il pose la question de la construction des diplômes professionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un diplôme professionnel? Est-ce qu'il est reconnu ou pas? Donc ça, c'est une vraie question. Il pose bien sûr la vraie question du CCF. Et là-dessus, on a appuyé très très fort dans notre rapport, après avoir interrogé bien sûr les professeurs et les élèves. Il pose aussi la question d'une forme de discrimination qui est apparue du point de vue des lieux de PFMP. Ça, c'est une notion qu'on avait bien relevée, effectivement. Il y a de la discrimination par les PFMP entre les élèves qui ont les réseaux pour ou qui ont les circuits pour ou qui bénéficient d'une équipe qui a des banques de stages à leur proposer ou pas, et ceux qui n'ont rien, ou ceux qui n'ont peut-être pas tout à fait la couleur qu'il faut, tout à fait, bref, le nom qu'il conviendrait, etc. Il y a une vraie discrimination qui se pose sur le terrain, et qu'on a bien souligné ici, mais aussi une discrimination entre les établissements. On le sait, la réforme de la voie pro a donné de l'autonomie très très forte sur les établissements, et l'a fait le pari qu'entre les équipes de direction et les équipes pédagogiques, il y avait une espèce d'alchimie qui allait se faire pour porter résolument la réforme du bac pro 3 ans. Ça s'est fait, ça se fait très très bien dans certains cas, ça se fait moins bien dans d'autres, et ça se fait pas du tout dans certains établissements. Ça veut dire qu'il y a aussi une discrimination selon le lieu, l'établissement dans lequel, effectivement, va arriver notre élève. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interrogés. Et puis, bien sûr, on a interrogé à travers le diplôme intermédiaire les fameux dispositifs spécifiques de la réforme du bac pour 3 ans, comme l'accompagnement personnalisé, ou comme celui qui n'est connu de personne, mais enfin qui existe quand même, le GLS, les enseignements généraux liés à la spécialité. Bref, on a aussi interrogé, on a touché du doigt ces dispositifs. Donc tout ça, bref, avoir été pilote de ce diplôme, de ce rapport sur le diplôme intermédiaire, nous a permis effectivement de faire le point aussi quelque part sur la réforme du bac pro 3 ans. Troisième casquette que j'ai encore, j'ai été pilote de la rénovation du tertiaire administratif. Alors, ce tertiaire administratif, on le sait, c'est une des filières majeures de l'enseignement professionnel, puisqu'elle regroupe plus de 100 000 élèves. Donc, c'est démesuré en termes de taille, en termes d'impact. Elle concerne près de 6 000 professeurs et autres. Donc là, on était sur des enjeux extrêmement forts. Mais elle est aussi intéressante, cette rénovation du tertiaire administratif, parce qu'elle porte, et vous avez dit dans votre introduction que l'enseignement professionnel était une terre d'innovation, eh bien cette rénovation du tertiaire administratif porte en germe toute une série d'innovations qui se sont mises en place et qui n'ont pas vocation à rester sur le tertiaire administratif, mais peut-être à imprégner la réflexion aussi en débordant un petit peu aussi sur les autres diplômes, y compris les diplômes industriels. Alors ces innovations, elles sont très très larges, évidemment. On a parlé, nous, d'alternance pédagogique qui allait se mettre en place concrètement à travers ce diplôme. On a parlé aussi d'une vraie pédagogie de professionnalisation. On a parlé aussi de scénarios professionnels qui se mettent en place à la place des traditionnelles séquences pédagogiques. On a des scénarios pédagogiques qui se mettent en place. On a parlé d'une sorte d'approche renouvelée, en tout cas plus précise, des compétences. On a parlé également de simulateurs administratifs, qui est peut-être une idée à installer effectivement dans nos établissements professionnels. Ces simulateurs sont parfaitement connus dans d'autres pans de l'enseignement professionnel, quand on regarde les ateliers industriels ou quand on regarde les lycées d'application en hôtellerie. Mais effectivement, sur les métiers du tertiaire, il fallait aussi apporter cette notion de simulateur administratif, de plateforme technique dans lesquelles les élèves sont immergés en formation. Bref, il y a eu toute une série comme ça d'innovations qui ont radicalement, enfin qui sont en train de transformer le travail des enseignants et la pratique des enseignants. Alors, il y a ici dans la salle donc des inspecteurs qui sont engagés, qui savent qu'au plus près des équipes, c'est pas chose simple. Il y a des équipes qui s'en emparent, d'autres qui, effectivement, et normalement, apportent des résistances. Donc, c'est typiquement au cœur, peut-être, des réflexions que vous allez avoir pendant ces 3 jours. Et donc, je serai très intéressé par vos conclusions, effectivement, sur les 3 jours. Et puis, dernière casquette, que j'ai eu, c'est que j'ai été rapporteur de... Il y a eu un atelier lors de la refondation de l'école, donc à partir de juillet jusqu'à peu près octobre. Vous savez que le ministre a choisi de mettre en place une grande concertation entre tous les acteurs pour préparer la loi de refondation de l'école. Et donc dans ces ateliers de concertation, il y avait un atelier qui s'appelait « Valoriser l'enseignement professionnel ». Et cet atelier de valorisation de l'enseignement professionnel, qui s'est déroulé sur 3 jours, a réuni l'ensemble de tous les acteurs éducatifs et civils aussi, qui ont débattu pendant 3 jours sur l'enseignement professionnel. Donc ça, ça a été extrêmement intéressant parce que ça a été un lieu de débat, ça a été un lieu d'échange. Et surtout, ça a permis de bien sentir, j'allais dire, à la fois les lignes de partage, mais aussi les lignes de fracture dans les représentations qu'ont les acteurs de l'enseignement professionnel. On a vu, par exemple, des positions diverses, mais en tout cas qui peuvent s'étaler entre les tendances dites assimilatrices d'ordre républicaine, dont vous avez parlé tout à l'heure. On veut être dans l'école de la République, donc on ne veut pas que l'enseignement professionnel soit en dehors de cette école de la République, donc... Ce que l'on connaît pour l'enseignement général et technologique, les voies générales et technologiques, on essaie de les transposer aussi à l'enseignement professionnel. Donc cette espèce de tendance intégratrice, assimilatrice qui existe. Et à l'inverse, l'autre curseur qui est à l'autre bout, qui est une tendance, j'allais presque dire de manière simple, identitaire, très spécifique en disant l'enseignement professionnel ne peut pas être traité comme le reste, il faut lui conserver sa vraie nature, ses vraies spécificités, ses vraies caractéristiques. Donc on a vu que tous nos acteurs se promenaient sur cette ligne de partage, cette ligne de curseur. Et donc on voit bien ces poids-là. Autre chose aussi qui était très très sensible, c'est ceux qui sont attachés, j'allais presque dire, à l'éducation professionnelle, donc notre secondaire professionnel, pour faire simple. Et effectivement, la ligne de fracture avec l'apprentissage, qui lui est en dehors, dans la représentation de certains, de l'éducation professionnelle, et qui, effectivement, souscrit qu'à un objectif d'insertion sur le marché du travail. Et on voit bien que cette vieille ligne de fracture qui existe depuis près de 2 siècles, j'allais presque dire à la naissance même du système de formation professionnelle, existe encore très très fortement actuellement. Et notamment sur le fameux débat insertion ou poursuite d'études, eh bien on voit bien que les paroles, enfin que les positions des uns et des autres sont pas radicalement tranchées là-dessus. Et ceux qui disent par exemple que l'enseignement professionnel c'est l'insertion, eh bien cette position-là devient de plus en plus minoritaire au sein même de tous les acteurs, que ce soit nos représentants effectivement des personnels, que ce soit auprès des parents d'élèves et autres, et on voit bien que l'enseignement professionnel devient de plus en plus une voie de poursuite d'études, un passage vers la poursuite d'études, avec Aziz Djellab qui intervient, je crois, le 3e jour, me semble-t-il, vous en parlera mieux que moi, ce grand mouvement de scolarisation progressive de l'enseignement professionnel dont il va vous parler un peu là-dessus. Donc ces positions-là, elles sont apparues très très nettement lors de ces débats. Et puis une dernière ligne aussi qui a été assez intéressante, c'est entre l'école de la République centrale et l'école des territoires. Donc la formation professionnelle, l'enseignement professionnel qui tient compte des spécificités locales, territoriales, régionales. Et là, il y a eu effectivement de vraies tensions qui sont apparues. Par exemple, le débat, même très pragmatique en ce qui concerne les enseignants, entre une épreuve ponctuelle qui est revendiquée comme garantie systématique d'avoir un vrai diplôme national qui couvre l'ensemble du territoire de la République, et ce fameux CCF qui, quelque part, modèlerait les épreuves et les diplômes à la lumière des exigences dites locales. Et on voit bien que cette position-là, elle apparaît très très nettement comme ligne de fracture entre à la fois des syndicats, entre eux d'ailleurs, mais aussi à travers les autres acteurs. Donc que doit-on faire à travers effectivement nos diplômes de tout cela? Voilà, excusez-moi encore cette auto-présentation un peu trop longue évidemment, mais on voit bien que en ce moment il y a quand même des espaces, des contraintes à la fois institutionnelles, réglementaires, législatives et autres qui montrent que l'enseignement professionnel est au cœur de la réflexion, même si dans la loi... Vous le savez, le ministre a d'abord privilégié l'enseignement primaire dans le travail et la réflexion sur la loi, mais avec, on pense, nous, que d'ici le printemps, et donc très rapidement, la question du lycée et du lycée professionnel va arriver très très concrètement, sous forme de texte, sous forme de circulaire et autres. Bien sûr, on commence déjà d'y travailler, mais vous voyez que le calendrier était un peu inscrit comme ça, priorité aux primaires, ça on l'a entendu, mais le lycée arrive là très très vite. Alors mon plan, juste trois points finalement assez simples. Peut-être une petite réflexion en intro sur l'enseignement professionnel, c'est quoi ? Peut-être une question un peu triviale, mais qui mérite un petit peu qu'on réfléchisse à ça. Le deuxième point, ça sera répondre à la commande, c'est faire un état des lieux de la rénovation de la voie professionnelle. Donc un état des lieux statistique, mais ça sera rapide, et puis un état des lieux peut-être un peu plus qualitatif. Et puis le troisième point, ça sera effectivement interroger le métier d'enseignant à travers quelques questions vives que l'on se pose en ce moment à l'inspection générale concernant l'enseignement professionnel. Donc trois parties simples. Alors l'enseignement professionnel, c'est quoi ? Alors on le sait, les objectifs généraux de l'enseignement pro... pas vous faire l'injure de le rappeler, mais on les connaît tous. Première chose, comme objectif, c'est l'élévation des niveaux de qualification. C'est un objectif éducatif fort. Élévation des niveaux de qualification et qui s'accompagne, bien sûr, de cet objectif de poursuite d'études. Ça va, effectivement, dans cette logique-là. La deuxième chose, objectif très fort, qui était la prévention des sorties sans qualification. Objectif affirmé, de dire que l'enseignement professionnel doit être un projet éducatif qui permette de limiter ses sorties sans diplôme, et bien évidemment, derrière tout ça, le décrochage. On sait, et bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais le poids qu'ont les diplômes, effectivement, en tout cas dans le système français, c'est clair, donc on peut le contester ou pas, faire ce qu'on veut, mais effectivement, un jeune sans diplôme ou un jeune qui a un diplôme en dessous de l'autre a moins de chances, effectivement, de réussir. Alors, ces deux premiers objectifs, élévation du niveau de qualification et puis prévention des sans qualification, ce sont les objectifs, effectivement, de la réforme de la voie professionnelle, hein, typiquement. Maintenant, il y a d'autres projets, d'autres objectifs qui sont derrière l'enseignement pro, c'est bien sûr avoir des projets d'insertion professionnelle, ne l'oublions pas. Quand même, c'est de l'insertion professionnelle, c'est aussi un projet de professionnalisation progressive de jeunes qui effectivement en 2 ou 3 ans d'élèves vont passer petit à petit à des professionnels en germe, donc il y a un vrai projet, effectivement un objectif de professionnalisation qui est fort. Et puis il y a aussi des objectifs, j'allais dire, socio-économiques, c'est le maintien de la relation formation-emploi. Évidemment, notre système et l'enseignement professionnel doit répondre aussi à cet objectif, avoir une actualisation en continu des demandes et des besoins, de l'offre de formation par rapport aux besoins de l'emploi, et tout cela effectivement est contenu en ce moment entre le débat effectivement sur la décentralisation acte 3, comme vous le savez, qui porte réellement sur cet objectif. Donc là on a globalement les objectifs généraux donnés à l'enseignement professionnel. Alors bien évidemment on peut en décliner toute une série d'objectifs beaucoup plus spécifiques sur la remédiation, sur plein de choses comme ça, mais on reste ici. Alors deuxième question sur l'enseignement pro en dehors des objectifs, c'est quel est son périmètre à l'enseignement professionnel ? C'est une question qui s'est posée. De quoi parle-t-on quand on parle de l'enseignement professionnel ? Une définition qui peut être simple de ce point de vue-là, c'est l'ensemble des actions éducatives visant à donner à un jeune un premier niveau de qualification. Donc ça c'est quelque chose d'assez large, c'est d'ailleurs contenu dans la circulaire de 2009 sur la réforme de la voie pro, c'est donc l'ensemble des actions éducatives permettant de donner à un jeune effectivement un premier niveau de qualification, sous-entendu qui va lui permettre de s'insérer et poursuivre des études, évidemment. Mais ça peut être vu aussi, l'enseignement pro, comme un ensemble, un système cohérent d'actions, d'acteurs, de lieux, de mode de formation. Donc on est ici sur un système effectivement extrêmement complexe de relations entre des formes de professionnalisation différentes, des formes de certification différentes, des pratiques aussi différentes et des acteurs qui interviennent effectivement, des acteurs de nature très très différentes qui interviennent sur ce système éducatif. Donc ça, c'est une vision qui est beaucoup plus large que la simple vision, vous savez, que l'on a de la voie professionnelle, comme on entend encore, la voie générale technologique, la voie professionnelle, parce que la notion de voie qui est un petit peu battue en brèche en ce moment est trop centrée sur des flux d'élèves qui circulent dans le système éducatif, qui rentrent, des entrants et des sortants, alors qu'il y a des enjeux effectivement beaucoup plus larges. Donc on s'inscrit davantage sur l'enseignement professionnel comme un système complexe effectivement d'acteurs et d'enjeux évidemment qu'il y a entre les systèmes de formation. Alors effectivement, si on est sur un système très très global, un projet éducatif d'ensemble pour des jeunes, valoriser l'enseignement professionnel, ça devient complexe évidemment. Et puis l'autre aspect qui nous semble aussi important, c'est cette notion de parcours dans l'enseignement professionnel qui devient cette fois-ci beaucoup plus riche que celle effectivement d'un élève qui rentrerait en seconde et qui sortira avec le bac, puisque vous savez que ce paradigme des parcours qui est en train d'irradier l'ensemble de la réflexion éducative est quelque chose qui transforme radicalement la vision des acteurs sur leur pratique. Très concrètement, quand on interroge un professeur et qu'en classe de première, il voit sa classe complètement remodelée parce qu'il a eu des secondes générales et technologiques qui sont arrivées, parce qu'il a eu 3 CAP qui étaient venus, et puis parce qu'il est en gestion administration, ben il voit quand même des jeunes de l'industriel qui arrivent, qui étaient en seconde industrielle, etc. Cette hétérogénéité de parcours, effectivement, est très très sensible d'un point de vue pragmatique. Donc cette notion de même d'orientation est battu en brèche par ce paradigme des parcours. On est en train, nous, en ce moment, à l'inspection générale, de mener une étude sur les parcours des élèves dans l'enseignement professionnel. On avait deux optiques. Soit on regarde encore nos chiffres macro, comme je le disais tout à l'heure, et puis on dit, bah oui, il y a tant de secondes qui vont là, tant de CAP qui vont en première, etc., etc. Bon. L'autre optique qu'on a prise, c'est d'aller interroger les élèves. Donc on va interroger, on est en train de conduire à peu près 150 à 200 entretiens d'élèves en individuel pour qu'ils nous expliquent ce qui se passe dans leur parcours et dans leur histoire. Donc on est en train de construire comme ça des petites biographies un petit peu d'élèves et on se rend bien compte, par exemple, les premiers résultats qu'on a, que cette fameuse notion de projet de l'élève, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on interroge des jeunes de seconde, même de première, qu'on leur dit « mais votre projet, c'est quoi ?», ils vous regardent en disant « mais de quoi vous me parlez, là ?». Or, la notion de projet de l'élève, si vous regardez bien l'orientation, elle est construite là-dessus. On a mis tout en place un système de dispositifs, d'acteurs, etc., pour aider les élèves à faire leur projet, à construire le projet. La notion de projet apparaît tout le temps. Alors, effectivement, quand on rencontre les élèves en interaction comme ça, on se rend compte effectivement qu'ils ne sont pas dans la logique de projet. Par contre, il y a une autre logique qui paraît essentielle, c'est celle de relation, de rencontre. Et tous ceux que l'on rencontre, qu'ils choisissent ou pas leur orientation, c'est pas leur question, de la choisir ou de la subir, par exemple, autre terme que nous on emploie très très fréquemment, mais qui ne se révèle pas, en tout cas dans les entretiens qu'on a. Par contre, ils vous disent tous qu'ils ont eu des rencontres déterminantes, influentes. Et ces rencontres-là, elles sont très diverses. La sœur, le voisin, le professeur principal, un proviseur, une rencontre avec un chercheur qui est venu, une rencontre à telle ou telle occasion. Bref, on est sur une logique de rencontre déterminante qui, elles, effectivement, peuvent déboucher peut-être sur des projets. Mais vous voyez que c'est extrêmement intéressant d'aller forer un petit peu ce que c'est que les parcours pour essayer d'avoir un éclairage peut-être un peu plus réel sur le fonctionnement de notre système éducatif. Alors, autre question qu'on se pose sur l'enseignement pro, c'est est-ce qu'on peut approcher l'enseignement professionnel comme le reste? Est-ce qu'on peut traiter de l'enseignement professionnel comme on traite effectivement de l'enseignement général, de l'enseignement technologique ou des voies générales et des voies technologiques? Ce qu'il faut reconnaître, c'est quand même, c'est un euphémisme, une certaine singularité. On ne peut pas passer à côté de la singularité de l'enseignement professionnel. D'abord, chose que vous connaissez, mais son extrême diversité. Son extrême diversité. Quand on dit, par exemple, qu'on doit modifier le bac professionnel, comme on dit qu'on va modifier le bac général ou le bac technologique, on ne parle pas sur 8 diplômes. On part sur près de 80 bacs pro et voire plus de 100 bacs pro si j'intègre l'enseignement agricole. Donc on part sur 100 univers, une centaine d'univers différents, éducatifs, qui portent aussi leurs spécificités. Quand on parle par exemple des bacs pro en BTS, on se rend bien compte que c'est pas j'ai mon bac pro et je vais dans mon BTS. On se rend compte qu'on est en train d'appareiller donc plus de 100 bacs professionnels avec près de 70-80 BTS. Donc ces appareillages-là, ça démontre effectivement une extrême diversité, donc on devrait avoir une très très grande prudence. Je prends des exemples tout simples. En ce moment, on nous parle d'introduire l'enseignement de la philosophie en bac professionnel. Vous avez peut-être entendu parler de ça, mais c'est le grand truc. C'est sorti lors de la refondation de l'école. Mais en fin de compte, est-ce qu'on se pose la question de l'enseignement de la philosophie dans tel ou tel univers professionnalisant ? Quel est son intérêt ? Comment ça peut se faire ou pas ? Quand on dit on va introduire une langue vivante 2 dans l'enseignement professionnel, et qu'en plus, ou même que la langue vivante 1 doit être l'anglais, est-ce qu'on se met bien à la place ? Est-ce qu'on a bien en représentation cette extrême diversité ? Pas toujours. C'est pour ça que la plupart du temps, tout ce que l'on peut décider au niveau institutionnel, certes, il faut avoir un discours institutionnel, mais rencontre systématiquement dans des applications sur le terrain des résistances, voire des incompatibilités. Parce que la diversité est là. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième singularité, c'est que l'enseignement professionnel, contrairement peut-être à nos autres pans du système éducatif, c'est le lieu et un enjeu pour de très nombreux acteurs et différents, hétérogènes. Effectivement, on l'a vu, les régions sont impliquées, les métiers, les branches sont impliquées, les professeurs évidemment, les établissements et autres. Donc tout le monde est impliqué effectivement sur cet enseignement professionnel. Et c'est un enjeu. Et puis, ne pas oublier, j'ai vu un excellent ouvrage qui était d'ailleurs en présentation ici à l'entrée, les référentiels, ne pas oublier que ce sont avant tout des construits sociaux. C'est un acte social, un acte de partage, un document de partage social entre des employeurs, des formés, des formateurs, des adultes qui sont en formation et autres. Bref, c'est un vrai construit social. C'est pas simplement un programme qui est fixé par l'inspection générale dans sa, voilà. Ça se fait pas comme ça. Donc il y a des enjeux forts, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont intérêt et qui portent des regards sur nos formations. Troisième point spécifique, me semble-t-il, à l'enseignement professionnel, même si là, il y a peut-être un peu de parti pris, mais tant pis, je pense que l'enseignement professionnel intègre une vision particulière de l'élève. Je m'explique. On considère effectivement que l'enseignement professionnel arrive à percevoir un élève dans sa globalité et qui est soumis, j'allais presque dire, dans un triple processus de transformation. Un élève qui arrive en lycée professionnel, il va suivre un processus scolaire, c'est-à-dire qu'il va apprendre pour essayer d'avoir des diplômes, processus scolaire classique, mais en même temps, il y aura un processus qui va se faire en même temps, comme si des films se jouaient en même temps, il y a un processus de professionnalisation qui se met en place. Ça veut dire que tout ce qu'il va recevoir doit être mis à l'épreuve de pratiques professionnelles. Il va rencontrer des adultes professionnels qui vont lui dire « mais est-ce que tu apprends là ?» etc. Bref, il va être exposé à cette réalité professionnelle et lui-même va devenir petit à petit un jeune professionnel. Peut-être au départ par une tenue dans laquelle il se sent un peu à l'étroit, peut-être avec des gestes qui sont un peu mécaniques, peut-être avec des déceptions quand il va aller dans ses premières PFMP et autres, mais en tout cas, il subit ce processus de transformation professionnelle. Et il le subit, espérons-le, en tout cas avec bonheur. Et puis, il y a un troisième processus qui est un processus de maturation, qui est un processus, certains pourront dire aussi de socialisation, même si ce terme-là est toujours un peu bizarre là-dessus, mais c'est vrai. Entre un jeune qui arrive en seconde et un jeune qui est en terminale, il y a plein de choses qui se sont nouées, alors que j'allais dire peut-être aussi, bien sûr, dans les voies générales et technologiques, mais cette construction de l'adulte qui est en train de se faire, effectivement, à l'épreuve des réalités et autres, est quand même très très particulier aussi en enseignement professionnel. C'est d'ailleurs un des points de bloc, enfin, d'interrogation de nos professeurs, quand ils ont vu arriver ces jeunes en troisième, qui avaient, alors statistiquement, 0,8 mois de moins que ceux qu'ils avaient avant, presque un an de moins, parce qu'ils n'avaient jamais redoublé, parce qu'ils arrivent après la troisième et autres, interroger les professeurs et dire on a découvert un public de gamins, de jeunes, de tout ça, voilà. Et donc il y a eu des transformations de profil Et on a vu des professeurs qui se posent cette question de comment effectivement arriver à cette maturation des jeunes en même temps que je puisse effectivement respecter mes objectifs de programme et autres. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour, alors bon, ils vous le disent avec leurs mots, les professeurs, mais qu'ils prennent du plomb dans la tête, qu'ils s'impliquent, qu'ils se responsabilisent, bref, tous des mots comme ça qui sont liés à la maturité effectivement des uns et des autres. Donc ce triple processus, ces trois films qui se jouent en même temps sont aussi caractéristiques et spécifiques de l'enseignement professionnel. On sait, et les psychologues d'ailleurs de l'adolescent le montrent bien, que certains disent ben, on essaie de découvrir la vraie vie. Quand des jeunes reviennent de PFMP, ils disent « Ah, j'ai trouvé la vraie vie », même quand ils reviennent en lycée professionnel. Il y a la fausse vie en lycée professionnel et autres. Eh bien ça, c'est spécifique à l'enseignement pro, parce qu'effectivement, sur les voies générales, technologiques, par définition, effectivement, il n'y a pas cette confrontation entre vraie vie et fausse vie. Ça, c'est clair. Ensuite, autre spécificité, c'est que l'enseignement pro, c'est quand même un vaste système de remédiation. De traitement alors de la difficulté scolaire, voire dans l'atelier de la refondation de l'école, on l'a vu aussi, voire de la très grande difficulté scolaire. Ce problème de la très grande difficulté scolaire auquel on est maintenant confronté en lycée professionnel, avant on était dans la difficulté scolaire, est quelque chose qui est très très fort, ce qui fait que ça implique de travailler des ruptures pédagogiques. J'allais presque dire des ruptures de santé publique. Pour certains jeunes, mais il faut introduire une rupture pédagogique extrêmement forte, extrêmement puissante, qui permette effectivement de réconcilier non seulement un jeune avec des savoirs, mais aussi avec des processus cognitifs qui doivent se remettre en route. Donc ici, c'est quelque chose de très très important en ce moment, ce qui se passe. Alors, ça implique aussi bien sûr des innovations, mais ça c'était déjà le cas avant. C'est bien, c'est pas parce qu'on est une terre d'innovation, par définition, c'est bien parce qu'on est face à la difficulté scolaire, face à des publics qui n'acceptent pas tout d'entrée, effectivement, qu'on est terre d'innovation sur l'enseignement pro. Ça implique effectivement des modes d'organisation, des animations aussi d'établissements professionnels particuliers, parce qu'on est dans le système de la remédiation. Et donc ça, c'est aussi une singularité qui me semble assez forte aussi, qu'il faut bien comprendre. Alors, tout ça montre quoi ? Que cette singularité participe à la construction identitaire de l'enseignement professionnel. C'est bien, quand on discute avec les enseignants professionnels, voire avec les élèves, les chefs d'établissement aussi, d'établissements de lycée professionnel, on voit bien qu'il transparaît dans leur discours, effectivement, une revendication aussi identitaire à travers tout ce que je viens un petit peu de tracer rapidement, trop rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui semble important. Et d'ailleurs, ça a un petit peu choqué ces derniers temps, notamment avec la réforme de la voie pro, le principe d'égale dignité a vite trouvé ses limites. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'égale dignité, au nom de l'égale dignité, ben, on fait plein de bonnes choses. Et puis quand on voit des bonnes choses qui se font dans la voie générale, sous le principe d'égale dignité, ben, on dit ben, il faudrait quand même que l'enseignement pro l'ait aussi. Ça, c'est le principe d'égale dignité. On voit bien que ça a rencontré des résistances qui étaient des résistances de type identitaire. On a des acteurs de terrain qui disent non, on n'est pas comme la voie générale, on n'est pas comme la voie technologique, on ne peut pas transposer les choses de manière systématique, etc. Et on ne veut pas l'être, hein, y compris d'ailleurs chez les représentants syndicaux. Hein. Deuxième chose aussi, la deuxième conclusion sur ça, c'est que l'enseignement professionnel, il est objectivé, ne l'oublions pas, par l'activité de travail. Parce que former un jeune à un métier, il y a quelque part en face une réalité qui est objective. On a un objectif qui est là, on a des pratiques professionnelles en cours qui se font, qui ont lieu, qui se transforment, évidemment, et cette activité de travail du monde professionnel, elle vient effectivement percuter les choix qu'on va faire au niveau de l'enseignement professionnel. Et c'est pour ça que l'activité de travail, aller observer ce qui se passe et ce qui se noue dans le travail, dans l'activité de travail, me semble être un élément incontournable pour tout acteur de l'enseignement professionnel. Je crois qu'aller regarder un peu, ce qui se développe dans... Il y a bien sûr tous des courants de recherche qui se font là-dessus, mais ne serait-ce que, par exemple, les courants de la didactique professionnelle et autres, il y a des choses de l'analyse de l'activité, de l'analyse du travail, de l'ergonomie cognitive et autres. Ce sont des champs extrêmement forts pour nous, parce que ça permet de comprendre un petit peu ce qui se noue. Donc, l'enseignement pro, c'est d'abord des professeurs qui vont voir leur savoir mis à l'épreuve de la réalité. On est professeur d'enseignement professionnel à partir du moment où on est bien conscient et où on a intégré que tout ce que l'on va enseigner en tant que tel va être confronté, mis en valeur, enfin, oui, exposé à une réalité de pratique professionnelle. Et effectivement, si vous êtes intervenu, si vous voyez des élèves qui reviennent, mais ce que vous me dites là, ça marche pas. On a cette idée de marche, ça marche ou ça marche pas. C'est utile ou c'est pas utile. Et puis mon tuteur m'a dit que mais non, on est beaucoup trop haut. Ou au contraire, ce que vous m'avez appris là, bah, le tuteur, il l'a pas encore mis en place dans son entreprise, dans son lieu, mais il y pense. Donc on voit tous ces mécanismes là de transfert qui se font avec cette réalité qu'elle a. Alors, l'état des lieux de la réforme de la voie professionnelle. Bon, des éléments de contexte très très simples. C'est le marché du travail. Bon, on sait que cet état des lieux, la réforme de la voie pro doit intégrer aussi ça dans ses approches. Marché du travail, il y a des tensions bien évidemment sur le marché de l'emploi. Il y a de la déqualification sur des métiers effectivement de niveau 4, 5. Eh bien, on voit donc parfois des masters, parfois des licences, des BTS, effectivement, qui descendent, par exemple, sur des métiers qui étaient réservés autrefois au bac professionnel. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique. On a également, sur le marché du travail, des transformations technologiques majeures, en ce moment, très, très, très fortes. Et puis, bien sûr, associé à ça, bon, un changement dans les organisations du travail. Les notions de compétences, d'élargissement de compétences sont fortement impactés par les politiques RH effectivement des entreprises et des organisations. On voit quand même des mobilités fonctionnelles et opérationnelles et géographiques qui se renforcent de plus en plus. Or, vous savez qu'un des là justement, je vous parlais des entretiens avec nos élèves, la mobilité est un vrai problème sur l'enseignement professionnel. Quand on parle, par exemple, d'orientation d'un jeune en seconde, un jeune, il vous dit pas « moi, j'ai choisi la formation qui me plaisait ou pas », il dit « j'ai choisi celle qui était dans l'établissement où je suis », ou celle qui est à deux stations de ma ligne de bus, parce que l'autre, j'aimais mieux, mais trop loin, c'était à quatre stations, c'est trop loin. Donc, on est sur ces problèmes très, très, très forts de mobilité qui impactent l'orientation. Donc, mais en même temps, effectivement, du point de vue des entreprises, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus fort. Donc, il faut peut-être s'interroger, est-ce que notre enseignement professionnel, il correspond encore au modèle RH qui existe actuellement, ou qui va exister, en tout cas, dans les années qui viennent. Très simplement, est-ce que m'engager dans une voie, obtenir un diplôme, un bac professionnel, maintenance des véhicules industriels, est-ce que ça va correspondre à ce que je vais faire de moi en tant que professionnel, en tant que développement tout au long de la vie. Est-ce qu'un diplôme qui prépare un métier est encore quelque chose de viable maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas préparer des jeunes à des parcours? D'ailleurs, y compris chez les adultes professionnels, la notion de carrière professionnelle n'existe pratiquement plus, mais on parle effectivement de parcours de mobilité. Et cette mobilité est extrêmement fluctuante. Donc là, la question est de se dire, effectivement, est-ce que moi, lorsqu'effectivement je suis engagé dans une formation professionnelle, comment est-ce que je peux me préparer à cet éclatement des identités professionnelles qu'on va avoir, qui étaient liées à un métier stabilisé et autres? Ça, c'est une vraie question qui doit se poser, effectivement, dans nos formations professionnelles. Alors, sur la réforme de la voie professionnelle, bon, je passe en disant que ça a été quand même un bouleversement majeur. Hein, parce que depuis près de 30 ans, on avait l'apparition du bac pro, bac professionnel, mais depuis, effectivement, ça a marqué effectivement une rupture extrêmement forte. On a reconfiguré les diplômes, on a reconfiguré les cycles, on a reconfiguré aussi les parcours. Les objectifs généraux, je ne vais pas les rappeler parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est d'abord inscrire l'enseignement professionnel dans la réforme globale du lycée. J'allais presque dire ça s'est fait un peu à l'envers, mais vous avez vu que la réforme du lycée, maintenant général technologique, est construite comme a été construite la rénovation de la voie professionnelle, la réforme de la voie professionnelle. Donc là, c'était la même chose. On retrouve les logiques de parcours, les logiques d'accompagnement personnalisé et autres. Hein, donc on a bien retrouvé tout ça. Autre objectif, c'est qu'il fallait une contribution encore plus forte à la réussite au baccalauréat d'une classe d'âge. Le fameux objectif des 80% d'une classe d'âge. Donc qui ont le baccalauréat, on voulait à travers cette réforme renforcer ça et que l'enseignement pro contribue encore plus fortement à cela. Bien sûr, limiter le décrochage scolaire, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, il y avait aussi un objectif de développer l'attractivité de l'enseignement professionnel, qui est toujours un peu un objectif qu'on retrouve et qu'on retrouvera encore, développer l'attractivité de l'enseignement professionnel, même si, évidemment. Alors, ce qu'il faut, et ça, c'est les rapports d'inspection générale, hein, qui, bon, je vous les renvoie, mais tous les rapports qu'on a mis, les notes d'étape et autres que l'on développe depuis 5-6 ans, ont traduit plein de choses. Première, ça s'est accompagné effectivement de tensions très très importantes sur le terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée de publics de plus en plus jeunes, évidemment, hétérogènes, ayant des parcours différents, donc avec, et de point de vue très concret, les professeurs le sentent là-dessus, c'était surtout à travers l'organisation des PFMP que ça s'est senti. Des élèves trop jeunes pour partir en PFMP en seconde. Alors il y avait certaines professions où c'était radical, puisque ça correspondait pas l'âge avec les critères de sécurité et autres. Donc là, il y avait des vrais problèmes, mais aussi d'autres problèmes pour trouver un stage, pour que le jeune aille au stage, soit présent, s'en aille, etc., etc. Et j'ai des professeurs qui me disaient, avant on avait des élèves qui avaient souffert, ceux-là aussi ont souffert, attention, hein. Ce sont toujours des élèves cabossés qui arrivent dans l'enseignement professionnel. Mais avant on avait des élèves qui avaient fait des parcours extrêmement fluctuants, qui étaient revenus en arrière, et quand ils venaient vers nous, eh bien ils trouvaient un vrai ancrage et ils savaient que la PFMP était importante. Maintenant, les professeurs vous disent, ben, on leur donne une PFMP, c'est même pas considéré comme un acquis, comme un dû, comme un effort qu'on fait vers eux. Ils prennent tout ça comme ils ont pris le reste, ni plus et ni moins. Donc il y a ce problème qui se pose, effectivement, lié à la jeunesse, puis lié aussi à des parcours linéaires des jeunes. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais redoublé, donc qui n'ont jamais rencontré ces vraies difficultés qu'il pouvait y avoir liées au redoublement, etc. Alors je ne dis pas qu'il faille redoubler, évidemment, mais ça crée effectivement une espèce d'approche de ce qu'on leur propose en enseignement professionnel un peu particulière. Autre chose, c'est quand même la mise en place précipitée de la réforme de la voie professionnelle. Je rappelle que la plupart du temps, on mettait sur le terrain et les textes n'étaient pas encore tout à fait sortis. Il y a eu effectivement des renversements un petit peu chronologiques comme ça. Et puis, les dispositifs comme l'accompagnement personnalisé, d'abord, effectivement, ça s'est mis en place avec un calendrier extrêmement resserré sur quelque chose de complexe, et ça, on l'a bien observé, et qui ont grandement complexifié les organisations pédagogiques. Dire qu'il faut travailler en barrette, qu'il faut des petits groupes, mais pas des grands groupes, mais pas des demi-groupes, puis avoir plusieurs intervenants, puis changer les menus pour les élèves. Enfin bref, les chefs d'établissement, s'il y en a parmi vous, savent ce que c'est que maintenant de faire effectivement un emploi du temps. Parce que là, ils ont appris ce que ça pouvait faire. Alors, sur l'efficacité des dispositifs, on n'a pas encore fait complètement, on n'a pas fait d'évaluation réelle. On n'a pas encore, d'abord, ça ne correspond pas encore avec l'arrivée final, de voir l'impact de ce que peut donner l'accompagnement personnalisé sur la réussite d'un élève. Il faut attendre encore un petit peu avant de le faire. Mais tout ça se l'est fait en même temps dans un contexte de réduction des moyens. Et en particulier des moyens de formation. Je passe aussi sur l'autre contexte qui était un contexte de réduction ou de suppression de postes. Contexte très très difficile. Là-dessus, ça voulait dire qu'on engageait, là on était, j'en parlerai tout à l'heure, mais de l'injonction paradoxale qui était faite aux professeurs, investissez-vous dans des projets, investissez-vous auprès des élèves parce qu'ils sont dans un cursus 3 ans, et bon nombre de nos professeurs ne savaient pas où ils étaient à la rentrée. Il y a des espèces comme ça d'injonction paradoxale très très fortes dans notre système, celui du CCF en est une autre, mais on en parlera tout à l'heure, mais ça a été quelque chose de très très fort qui a créé de la tension. Troisième, effectivement, tension, bah, c'est le CCF, évidemment. Généralisation du CCF en même temps que l'on mettait en place la réforme de la voie professionnelle. Généralisation du CCF, en particulier sur le diplôme intermédiaire. Et là, c'est quelque chose qui a été très difficile à vivre pour les professeurs, parce que très chronophage, vous l'avez tous dit. Ça existe à longueur de rapports d'inspection générale. C'est chronophage, et en même temps, on a des programmes qui ne changent pas. Donc on prend sur du temps de formation pour faire passer des CCF, et en même temps on a des programmes qui sont pareils, voire qui enflent. Injonction paradoxale encore une fois. Donc ça, c'est des éléments effectivement qui ont créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Je parle pas un peu des situations dramatiques qu'on a rencontrées, nous, de ces professeurs, vous savez, qui font une heure d'enseignement et pas autre chose, alors art plastique et autres, mais peu importe, et qui ont en plus du CCF à faire passer. Hein, prévention, sécurité, environnement, par exemple, les enseignements de PSE, ça a été terrible, parce qu'ils ont qu'une heure avec une classe, 18 classes dans un établissement, des CCF à faire passer, un programme réformé et qui est lourd, plus des certifications à côté, à faire passer. D'ailleurs, pour ça qu'on a rencontré les professeurs qui étaient en perdition, qui voulaient démissionner, qui voulaient partir, etc. Donc ça a été extrêmement lourd. Et puis dernière tension aussi, qui était, enfin plusieurs, deux autres tensions encore, c'était une désarticulation entre les diplômes intermédiaires et les diplômes de bac. Où quand l'un et l'autre n'est pas articulé, dans le cursus 3 ans, on a eu bien des séquences de formation, des cursus qui se faisaient en 2+1. Pendant 2 ans, on préparait le diplôme intermédiaire, puis après, on n'avait plus qu'un an pour se concentrer sur le bac à diplôme inchangé. Donc ça créait des vraies tensions, effectivement, en termes de planification de l'enchant. Et il y a beaucoup de diplômes qui étaient désarticulés. Enfin, dernière tension, c'est la masterisation, qui, en tout cas en enseignement professionnel, a créé pas mal de problèmes, même très pragmatiques. Hein, l'accueil de stagiaires avec des référents, etc. On le connaît aussi d'autres problèmes qui est le vivier même de professeurs dans les concours de recrutement pour l'enseignement professionnel. Je rappelle que le recrutement traditionnel des professeurs d'enseignement professionnel, on avait beaucoup de professeurs qui avaient un diplôme de niveau 3, qui avaient une expérience professionnelle derrière, qui ensuite intégraient. Maintenant, effectivement, ce vivier a été amoindri, d'où effectivement les dernières dispositions qui vont là-dessus. Donc on est bien sur le caractère paradoxal d'une mise en œuvre d'une réforme importante, essentielle, très ambitieuse, avec une réduction drastique de moyens de postes. Ce qui fait que la plupart des dispositifs ont été détournés. On a vu bon nombre d'établissements qui, ben, voilà, les dispositifs d'accompagnement personnalisé, de GLS, ont été utilisés pour maintenir des postes, pour essayer de stabiliser une équipe, etc. Mais étaient effectivement éloignés de leur origine, de leurs ambitions d'origine. Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, et on l'a conseillé, nous en tout cas dans les rapports, il faudrait un peu de retour au calme sur l'enseignement professionnel. Il faudrait effectivement, et bon, on l'a dit, et j'espère que la loi va le faire et on va le conforter là-dessus, mais qu'on revienne effectivement à un peu de calme sur les dispositifs, sur les choses comme ça, tenir compte aussi des acquis, parce qu'il y a eu des acquis dans cette réforme de la voie pro, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, on est plutôt à conseiller aux uns et aux autres à stabiliser un peu les choses pour essayer d'intégrer et d'aller plus loin. Alors, un état des lieux. Ce sera les seuls chiffres, quelques chiffres qu'on peut donner, statistiques, hein, sur la réforme de la voie pro. Tout d'abord, un premier préalable, on l'a dit dans nos rapports, il y a un vrai problème de suivi statistique. On n'est pas équipé encore complètement à l'éducation nationale pour suivre statistiquement les parcours différents, effectivement, qui se propagent dans le système. On l'a dit, vous savez par exemple que l'enseignement agricole n'était pas rattaché à nos bases systématiquement. Donc quand on dit par exemple qu'il y a des décrocheurs à l'éducation nationale, eh ben, il y a peut-être des décrocheurs qui sont partis dans l'enseignement agricole. Et réciproquement, quand l'enseignement agricole parle de décrocheurs, il y a des transferts comme ça qui se font entre ces systèmes-là, dont on appréciait peu l'ampleur. Alors maintenant, c'est quelque chose qui est en train d'être appareillé. Autre problème statistique, c'est qu'un élève qui est en formation, dès qu'il devient candidat à un examen, il y a rupture de son identité. Il change de numéro d'identifiant. Alors, c'est peut-être tout bête, mais par exemple, un élève qui est scolarisé au lycée professionnel Louise Labbé, s'il devient titulaire du bac professionnel gestion administration, eh bien, la rupture est faite, on ne sait pas s'il est passé par le Louise Labbé et qu'ensuite il a pu faire un apprentissage pour revenir au Louise Labbé en formation continue, enfin, etc., etc. Donc, à chaque fois que l'on passe un diplôme, il y a une rupture d'identifiant. Alors, c'est peut-être un peu technique ce que je dis, mais c'est quand même pénible de ne pas pouvoir appareiller des bases et qu'on n'ait pas finalement un identifiant unique que l'on aurait pendant toute notre vie et que l'on soit en formation, que l'on soit candidat, que l'on soit bachelier titulaire d'un diplôme et qu'on revienne en formation, qu'on ait toujours le même identifiant pour avoir, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, notre traçabilité. Et si on n'a pas ça, effectivement, on va avoir du mal à appréhender l'ensemble de tout cela. Alors, je dis pas ça parce que ma charmante collègue est devenue directrice de l'ADEP, Catherine Moisan. Mais effectivement, il y a en ce moment, l'ADEP est en train de faire de gros efforts d'appareillage des bases statistiques. Et c'est un vrai travail, en tout cas, qui est en train d'être mené. Mais pour l'instant, il faut bien reconnaître qu'on était un petit peu, dénué un peu d'intérêt, de compétences sur ce problème-là. Il y a aussi le problème des rapprochements des données INSEE avec les données scolaires, etc. Il y a plein de problèmes statistiques qui se posent. Alors, les effectifs du secondaire professionnel. On s'était dit l'attractivité, peut-être que de dire l'attractivité doit se développer, il faudrait davantage d'élèves vers la voie professionnelle. On se rend compte que là-dessus, il n'y a ni peur ni ambition à avoir, on est d'une grande stabilité. Il y a une grande stabilité sur l'ensemble du secondaire professionnel. Là, on est en 2012 à 661 000 élèves qui sont dans le secondaire professionnel. Ce chiffre de 661 000, alors selon les années, mais depuis 10 ans, on navigue toujours entre 670 000 et 700 000 élèves. On est à peu près sur cette fluctuation-là. Donc il n'y a pas eu d'arrivée massive d'élèves vers la voie professionnelle, vers l'enseignement professionnel. On constate même un léger tassement d'ailleurs, enfin léger, qui est important quand même, puisque donc à la rentrée, on a eu moins 6,4% d'élèves en moins, donc dans l'enseignement professionnel par rapport à 2011, donc moins 6%. Alors on peut dire effectivement il y a l'impact démographique qui joue, sauf qu'en parallèle de cela, le général et le technologique a enregistré cette année en tout cas un plus 0,4%. Donc il y a un léger frémissement à la hausse sur le général technologique et on a quand même moins 6% sur le pro cette année. Donc l'idée de dire tout le monde va dans l'enseignement professionnel au lieu d'aller sur le général technologique, ça n'existe pas. C'est pas le cas. Alors, autre aspect, c'est quand même depuis 2006, j'ai regardé les chiffres sur l'enseignement professionnel, on a perdu 10% d'élèves. Depuis 2006, il y a eu quand même moins 10%. On linéarise un petit peu les choses par rapport aux effectifs démographiques, alors que le général et technologique, lui, a perdu 3%. Donc on a perdu 3 fois plus d'élèves sur le pro qu'effectivement sur les autres voies. On est toujours à peu près sur le même équilibre dans le secondaire pro, entre 20% de CAP et 80% engagés dans le cursus bac pro. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt stabilisé. Autre élément de l'enseignement pro, vous avez 175-180 000 élèves qui sont dans l'enseignement agricole, en plus de tout cela. Quand même, ça représente... on était toujours à peu près sur un cinquième, un sixième des effectifs du secondaire du ministère de l'Éducation nationale. Et vous avez, alors sur l'apprentissage, on est à peu près à 370 000 apprentis actuellement en France. Alors, ces 370 000 apprentis, il y a plusieurs effectivement niveaux. Il y a à peu près 190 000, et c'est le gros du bataillon qui sont en niveau 5, au niveau des CAP. Vous en avez 123, 125 000 qui sont au niveau 4, au niveau des bacs. Le reste, c'est au niveau des BTS, et c'est cette partie-là de l'apprentissage qui est en train d'exploser. On est à peu près à 50 000 élèves pour l'instant, d'étudiants, pardon, sur les BTS en apprentissage, mais c'est quelque chose qui commence à être très très important, qui se développe en tout cas. Alors, sur les flux cette fois-ci, ça représente à peu près le quart des élèves de 3e qui se dirigent vers l'enseignement professionnel. Et ça aussi, c'est quelque chose de stable. Et le quart des élèves de 3e, vous en avez 20% donc, qui vont en seconde pro et 5% qui vont en CAP. Ça, c'est pour avoir un peu une idée globale des flux. Sur les 25% de 3e, vous en avez 20% qui vont dans le cursus 3 ans et puis 5% qui vont sur les CAP. On a également une proportion assez stable. Le secondaire professionnel représente entre 40 et 45% du secondaire général et technologique. Ça représente à peu près toujours ces choses-là. On est toujours à peu près calé comme ça. Par contre, ce qui est absolument caractéristique, c'est qu'il y a une énorme concentration des effectifs sur l'enseignement professionnel, sur quelques spécialités. Sur quelques spécialités. Quand tout à l'heure je parlais de diversité, il y a également une diversité très très forte en termes d'effectifs. Vous avez 5 spécialités de bac, sur les 80 qui existent hors agriculture, qui concentrent 60% des effectifs. Donc, en 5 spécialités de bac, on a 60% des effectifs du secondaire professionnel. D'où les enjeux dont on parlait. Alors, effectivement, on les connaît. Vous avez les filières de commerce, les filières administratives. Vous avez les filières industrielles sur les équipements électriques, etc. Donc ça, ce sont les gros, gros flux. Et à côté de ça, vous avez des flux qui sont très, très marginaux. Alors, les grandes tendances liées à la réforme de la voie professionnelle. Si on veut la résumer, c'est qu'on a un taux d'accès au bac qui est beaucoup plus important, mais également des sorties plus importantes, un décrochage plus important. Ça, c'est une donnée qui est incontournable. Alors, en termes de flux, après la seconde professionnelle, par exemple, vous avez 80% des élèves de seconde qui passent en première. 80% passent en première, directement. Alors, vous en avez 5% qui redoublent, et ça, c'est quelque chose qui est en train de diminuer, de manière très, très notable. Vous en avez 2% qui partent vers d'autres formations, mais ça fait quand même presque plus de 13% d'élèves qui décrochent à la fin de la seconde. Donc, on a un élève sur 7, j'allais presque dire 3 à 4 par section, qui décroche et qui n'y arrive pas au bout de la seconde, ce qui est un chiffre très très important. Après la première, si je continue l'avancée, vous en avez 85% qui passent en terminale. Il y en a un peu plus de 2% qui redoublent, donc on redouble beaucoup moins sa première, c'est une chose. Mais vous en avez là encore 12,8% qui sortent des bases scolaires. Alors je dis bien qu'ils sortent des bases scolaires. Sous réserve qu'ils sont peut-être allés ailleurs dans l'enseignement agricole et autres. Mais on reste quand même à 12,8-13% effectivement de décrocheurs, encore une fois en fin de première. Alors, les autres flux que l'on a et qui sont intégrés dans la réforme de la voie professionnelle, c'est combien de CAP vont en bac professionnel, c'est-à-dire rejoignent la passerelle du cursus 3 ans, qui faisait partie des ambitions. On a un élève sur 5 qui passe effectivement dans le parcours bac pro. Dans le parcours bac pro, il y a eu deux possibilités. Vous aviez 15% qui vont en première pro. Quand je dis un élève sur 5, donc à peu près 20%, vous en aviez 15% qui vont en première pro et les 5-6% restants vont en seconde pro. C'est-à-dire que pour eux, ça va être un parcours en 5 ans qui va être proposé. Ce qui pose aussi question, qui est une des questions de la réforme de la voie pro. Alors, les sorties des bases scolaires en première année de CAP, en première année de CAP, sont très importantes. Elles sont de l'ordre de 18-19% des jeunes de CAP décrochent à la fin de la première CAP. C'est presque un élève sur 5 qui décroche. Ça aussi, c'est une vraie interrogation. Parce que là, le traitement de la très très grande difficulté scolaire, il est là aussi. On a également rencontré, vous le savez, dans des académies qui n'avaient pas ouvert suffisamment de CAP. Les jeunes, après la troisième, qui étaient en très grande difficulté scolaire, n'ont pas eu d'autre choix que d'intégrer des cursus 3 ans. D'où des décrochages encore beaucoup plus forts, effectivement, sur la seconde. Maintenant, l'équilibre sur les offres de formation dans les académies, c'est quelque chose qui s'est un petit peu équilibré. Et les recteurs, effectivement, ont ajusté leurs offres de formation pour qu'effectivement, les deux possibilités de parcours, je dirais le 4 ans via le CAP ou le 5 ans via le bac pro, puissent être traitées. Je vais aller plus vite, c'est ça ? Parce qu'on est... Voilà, très bien. Sur le baccalauréat. Le baccalauréat... je finis quand même sur les flux. Vous le savez, la passerelle professionnelle technologique a complètement disparu. Avant, on a fait effectivement cette passerelle-là qui existait. Bon, là, elle s'est complètement tarie. Ce qui veut dire qu'on est sur des passerelles, bon, le terme n'est pas beau du tout, mais essentiellement descendantes. On a des jeunes de seconde générale technologique qui ensuite reviennent ou viennent dans l'enseignement professionnel alors qu'ils auraient peut-être dû s'y diriger dès le début et pas perdre une année de plus, etc. Ça, c'est des choses qui existent. Alors, sur le baccalauréat, on le sait, il y a un taux d'accès au baccalauréat qui est beaucoup plus fort qu'effectivement avec l'ancien cursus 4 ans, où je rappelle qu'on était en BEP, qu'avec le BEP, certains continuaient vers le baccalauréat, etc. Le taux d'accès au bac est de 63%. Ça veut dire que quand on rentre en seconde, il y en a 63% qui accèdent au baccalauréat. Auparavant, quelqu'un qui rentrait, enfin une classe d'âge qui rentrait en première année de BEP, il y en avait 27% qui accédaient au baccalauréat. Donc on va presque d'un rapport de 1 à 3, 1 à 2,5. Donc effectivement, il y a une arrivée beaucoup plus forte, il y a un accès beaucoup plus fort effectivement au baccalauréat. Donc il a plus que doublé évidemment. Alors peut-être que la baisse du taux de réussite d'ailleurs s'explique aussi mécaniquement par cette espèce de flux, le non-écrémage qu'il y a eu effectivement après le BEP et autres. Il y a quand même des éléments qui sont forcément ici. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une arrivée massive des bacheliers professionnels à la session 2012, puisqu'on est passé en un an, de 2011 à 2012, de 186 000 inscrits à 243 000 inscrits. Donc on a eu donc une arrivée d'inscrits extrêmement forte. On a eu 35 000 bacheliers de plus cette année que l'an dernier. Ce qui vous explique le vrai problème qu'il y a de la poursuite de ces bacheliers supplémentaires, 35 000 en plus sur le dispositif, effectivement, avec le BTS et autres. Certaines académies qui ont un enseignement professionnel surdimensionné, par exemple Bordeaux, eh bien, il faut qu'ils traitent ces jeunes bacheliers en plus par des arrivées sur les BTS. Il faut qu'ils en fassent quelque chose derrière, obligatoirement. Donc ça, c'est des tensions extrêmement fortes. Sur le taux de réussite, alors, le taux de réussite est en baisse. Alors, sur les deux années, on est passé de... Il y a moins 6 points entre 2011 et 2012. On est passé de 84%, 2011, 84% le taux de réussite moyen, donc au bac professionnel, à 78%, donc sur 2012. Alors, sur ce taux de réussite, il y a quelques points clés qu'il faut connaître un petit peu. 2008... on avait un taux de 77% en 2008 de réussite, qui finalement est à peu près celui qu'on a retrouvé maintenant. 2009, c'est l'épreuve de contrôle qui a été introduite. L'épreuve de contrôle, de rattrapage du baccalauréat professionnel. Et 2009 a fait monter le taux, et cette épreuve de rattrapage, à 87%. On a gagné 10 points de taux de réussite en 2009. Et finalement, on voit bien que l'on revient presque au niveau avant 2009, voilà. Et est-ce que ça va se continuer ou pas? Bon, on verra. Donc ça, c'est un peu les évolutions macro. Bon. Alors effectivement, ça pose plusieurs grandes questions sur les parcours. Est-ce qu'il faut des parcours 4 ans, des parcours 3 ans? Le parcours 4 ans a été réclamé par l'ensemble des acteurs éducatifs lors de la refondation de l'école. Ça, c'est quelque chose qui est réclamé à nouveau. Il faut revenir au parcours 4 ans. D'autres rétorquent que le parcours 4 ans existe de fait avec CAP plus l'intégration en première pro. Sauf que ça, c'est la rigidité des cartes de formation qui peuvent effectivement contrecarrer ça, mais le débat est encore là. Autre question forte, c'est la poursuite, effectivement, je l'ai dit, des bacs pro en BTS. Ça, c'est quelque chose de fort. Avec... En toile de fond, ne l'oubliez pas, l'équilibre qu'il y a entre l'enseignement technologique, les voies technologiques et les bacs technologiques, et les bacs professionnels. Parce que s'il y a généralisation des bacs pro en BTS, on supprime de fait cette particularité française qui est la voie technologique. On ne voit pas pourquoi un élève prendrait des risques à aller sur un bac techno, sachant qu'il peut se sécuriser par un bac professionnel, que de toute manière, s'il veut continuer, il ira en BTS, effectivement, avec ce bac professionnel. Donc ces équilibres entre techno et pro, c'est une des questions clés qu'il y a en ce moment. Bien sûr, troisième question qui se pose, c'est bien sûr la décentralisation, l'orientation et autres, on en a déjà parlé. Alors je vais aller tout de suite, pour terminer, sur les questions vives, finalement, que l'on se pose, nous, en ce moment, à l'inspection générale, mais de manière un peu plus large, et puis les liens avec votre problématique. Et ça sera ma conclusion. La première des questions vives, alors elles sont pas dans un ordre prédéterminé et autre, ce sont des thématiques. La première de nos questions, c'est simplifier l'évaluation et la certification dans l'enseignement professionnel. C'est un axe fort. On a alerté effectivement le ministre, le cabinet sur ça. Il y a urgence à alléger, à simplifier évaluation, certification dans l'enseignement pro. Alors, ça veut dire que d'un point de vue très très concret, il faut se poser la question des objets à évaluer et à certifier. Mais qu'est-ce qu'on évalue? Qu'est-ce qu'on certifie? Des connaissances, des compétences. On parle de plus en plus d'acquis professionnels. Avec toutes les nuances qu'il y a entre tout ça, vous en débattrez. Ou même aussi évaluer l'expérience. Donc c'est le problème des objets d'évaluation qui est questionné ici. Il y a bien sûr les modalités d'évaluation. On connaît deux modalités, le ponctuel. On connaît le CCF qui est, il faut bien le reconnaître, un ponctuel dans sa forme d'évaluation ramenée à l'établissement, mais ça a la même structure qu'un ponctuel. Des élèves sont convoqués, des professionnels doivent venir, il y a des planifications, il y a des tas de choses comme ça. Donc on est dans une forme d'épreuve ponctuelle ramenée dans une organisation d'établissement. Il y a l'inspection générale, donc nous on a suggéré qu'il pouvait y avoir effectivement des évaluations basées sur une évaluation en continu des acquis. Je dis pas du contrôle continu tel qu'on l'a connu il y a quelques années, où je levais la main, j'étais évalué, je la rebaissais, j'étais à nouveau évalué, je tournais la tête à gauche, j'étais évalué, etc. Bref, une évaluation en continu clinique qui était comme ça. Mais par contre, qu'effectivement, un professeur de mathématiques qui suit en continu les acquis de ses élèves est capable de porter un jugement très simple, ce qui peut nourrir la certification. Donc, on est plutôt, effectivement, nous, à se dire qu'il y a vraiment des grands allègements à avoir si on a les outils pour suivre en continu ces acquis et qu'effectivement, à la fin de cela, ça donne lieu à une note qui est mise peut-être par une équipe pédagogique, mais qui va nourrir la certification. Parce que qui mieux qu'un professeur qui a suivi en continu peut avoir effectivement un jugement objectif de tout ça. Donc il y a ces questions-là qui se font. Il y a bien sûr la certification intermédiaire, la question elle a été posée, qui se pose aussi. Vous savez qu'elle est très menacée, elle était très menacée, elle est toujours menacée. On se demande ce que c'est que ce truc qui vient se mettre là, qui est pas reconnu par les professionnels. Nous, on a fait un rapport qui démontrait l'inverse. C'est que ce diplôme à mi-parcours a un vrai intérêt pour les élèves. Et aussi un vrai intérêt pour certains des collègues professeurs qui se disent « Moi, je pourrais pas les tenir 3 ans sans avoir une échéance comme ça au milieu. Hein, » il y a ce genre de choses. Bref, il y a eu ces remontées de terrain qui nous posent cette question-là. Il y a eu aussi une question qui est forte là-dessus, c'est la validation du socle commun de culture de connaissances de compétences de culture de connaissances en lycée professionnel. Il y a beaucoup d'élèves qui ne l'ont pas validé à la fin de la scolarité, donc de 3e, et quid, effectivement, de ce socle lorsqu'ils sont dans l'enseignement professionnel. Nous, on plaiderait, mais ce sont que des propositions, pour que le diplôme intermédiaire soit nourri aussi de cette évaluation du socle, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui disent, moi, si ce que je demande à un jeune au niveau du diplôme 5, c'est qu'il puisse écrire, c'est qu'il puisse réagir, c'est qu'il puisse être curieux, c'est qu'il puisse avoir, bref, toutes les compétences du socle. Et pourtant, il parle de ses pratiques professionnelles. Peut-être qu'un diplôme intermédiaire nourri par une certification socle, en même temps une certification de pratique professionnelle, ça l'enrichirait et ça lui légitimerait aussi au point de vue des professionnels. Et puis, donc, tout ça, ça interroge les professeurs dans les pratiques, bien sûr, d'évaluation, vous allez en parler, évidemment, le lien qu'il y a entre formation et évaluation. Pour l'instant, nous sommes dissociés dans nos têtes, intellectuellement dissociés. Un professeur, il forme ou il évalue. Il forme ou il certifie. On pense effectivement qu'il y a quand même des logiques maintenant qui sont intégratives. En même temps qu'on forme, on observe des acquis qui se mettent en place, eh bien on peut les évaluer. Et on pourrait certifier en même temps. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et puis l'autre débat que vous allez avoir sans doute sur l'évaluation, c'est entre la notation et l'évaluation par la moyenne ou bien l'évaluation par les progrès. Vous savez que la grande différence entre notre système et certains systèmes scandinaves, c'est quand même ça. C'est l'évaluation par les progrès qui prime sur l'évaluation par rapport à une moyenne relative par rapport à une classe, qui n'a pas de sens en tant que telle. Donc un élève, effectivement, qui passe de 4 à 8 de moyenne, eh bien, voilà, devrait être largement favorisé par rapport à un autre, peut-être qui passe de 12 à 13 de moyenne. Et pourtant, on est très très loin de ça, mais c'est une réflexion qu'il doit y avoir sur l'évaluation. Deuxième point, deuxième question vive, c'est comment mettre en place l'alternance pédagogique dans nos formations professionnelles. Ça pose la question, bien sûr, très aiguë des PFMP, des stages. Nous, on plaide pour qu'il y ait peut-être moins de stages en classe de seconde, que ce soit des stages d'observation, mais peut-être en durée plus réduite, et peut-être aussi, mais là on est dans la prospective, pourquoi pas que les durées de stage qui sont imposées, qui s'imposent à tout élève de l'enseignement professionnel, les 22 semaines, pourquoi ne serait-elle pas modulée en fonction des projets justement ou des orientations des élèves ? Peut-être qu'en terminale, un élève qui est prédisposé pour aller réussir en BTS, il est peut-être pas obligé d'aller jusqu'aux 22 semaines de stage, et peut-être qu'il pourra avoir 4 ou 5 semaines de moins qu'un autre qui, lui, pourrait mettre à profit ça, effectivement, pour l'insertion et autres. Peut-être. Donc, ces PFMP, ça semble être quelque chose d'important. Donc ça, voilà. Et puis, derrière les PFMP, il y a les notions de partenariat. Il ne faut plus que l'on voit des élèves qui vous disent « Ben, moi, c'est moi qui me suis trouvé mon stage ». Et en corollaire de ça, des professeurs qui disent « Oui, mais ça leur apprend bien ce que c'est que la vie du réel, etc. » Parce qu'on a vu beaucoup d'élèves exposés, encore une fois, de la discrimination en direct. Alors, on plaide pour qu'il y ait des vrais partenariats. Pourquoi pas impulsés par les régions, des partenariats nationaux, des partenariats au niveau des régions et des partenariats au niveau des établissements, avec des entreprises, avec des organisations qui proposent des banques de stages. Parce que ça passe par là, la sécurisation des parcours des jeunes, ça passe par ça. Parce qu'on leur propose effectivement des lieux qui soient à la hauteur de ça. Et puis dans l'alternance pédagogique, il y a tous les plateaux techniques dans les établissements qu'il faut développer. On le sait, des élèves vont découvrir des situations professionnelles beaucoup plus complexes et intéressantes parfois sur un plateau technique d'établissement bien construit qu'en perdant peut-être une semaine de PFMP dans un lieu qui n'est pas adapté. C'est pour ça que l'idée des simulateurs administratifs, des ateliers, etc., on pense que ces plateaux techniques, c'est une très très bonne alternative à l'alternance pédagogique. Troisième point, c'est améliorer la lisibilité des diplômes professionnels. Donc, il faut interroger le rapport des enseignants au référentiel. Qu'est-ce qu'ils connaissent du référentiel ? Trop souvent, on est fixé sur le référentiel d'examen, de certification. En quoi est-ce que le référentiel d'activité professionnelle, celui qui est ancré dans le métier, il imprègne ma pratique d'enseignant ? On pense de plus en plus, avec les nouveaux référentiels, que le RAP, le référentiel d'activité professionnelle, devrait être l'élément moteur central de tout le reste. C'est quand même la perspective, le contrat qu'on a de développer une professionnalité qui devrait nourrir l'ensemble des pratiques pédagogiques plus que de s'adapter, de se conformer à telle ou telle épreuve de certification. Donc le déplacement vers le RAP semble être un guide qui nous semble important, enfin un axe important. Quatrième point, affirmer la place des enseignements généraux dans l'enseignement professionnel. C'est une vraie question en ce moment. Quelle est la place des enseignements généraux dans l'enseignement professionnel ? On voit bien, et là il faut interroger les pratiques enseignantes, les pratiques duales, en général, des blocs qui sont séparés ou qui collaborent mais de manière très très épisodique, parce qu'il n'y a pas de guide, parce qu'il n'y a pas d'orientation générale et de mode de fonctionnement qui soit impulsé. On voit bien que les rapports disciplinaires sont très très forts, y compris à l'intérieur des enseignants de spécialité. Donc c'est tout ça qu'il faut un petit peu interroger, et en particulier on sait qu'on développe de plus en plus des enseignements conjoints qui semblent être vraiment des voies prometteuses, à la fois quand on interroge les enseignants et les élèves. Alors je parlais tout à l'heure du bac gestion administration, vous avez des ateliers rédactionnels qui se mettent en place, prof de lettres, prof d'économie gestion, pour, à travers des documents administratifs, interroger les verbes, interroger les expressions, les compétences rédactionnelles, syntaxiques et autres. Et donc on voit des élèves qui vous disent « Oui, quand je fais une demande d'autorisation à une mairie, si je connais que le présent, on me répondra toujours non, je veux, hein. Si je connais le conditionnel, j'aurai des réponses positives peut-être. » C'est ça qui doit se nouer, et vous avez une partie qui est nouée sur les écrits professionnels, me semble-t-il. C'est à travers ça que ça peut se développer. Vous avez la même chose en industriel, entre les physiques, effectivement, les formations industrielles spécifiques. Donc les ateliers conjoints nous semblent être des voies très très prometteuses pour, effectivement, réinvestir les enseignements généraux. Je vais très vite. Dernière chose, alors l'innovation pédagogique. Vous l'avez dit, c'est très important. La notion de rupture pédagogique, c'est ce qui va sans doute impacter vos discussions. Je pense que le déploiement du numérique doit être un axe qui doit être réfléchi, mais dans toute sa globalité. Vous savez qu'il va y avoir un service public du numérique, service d'éducation du numérique, qui va être installé. Ça veut dire que le numérique, c'est pas simplement de la cosmétique. Pour faire un tableau blanc interactif, PFC, que ça soit un peu plus amusant, un peu plus intéressant, etc. C'est que le numérique est une vraie culture à intégrer, et aucun enseignant, aucune discipline est à l'abri de cette ambition-là. Je vais terminer sur les liens économiques, ça c'était une chose. Peut-être qu'il y a aussi, et on l'a développé, il faut inscrire l'enseignement professionnel dans un projet républicain. on pense que les lycées professionnels peuvent encore se transformer davantage et s'améliorer pour intégrer davantage de pratiques socio-culturelles et éducatives. On pense, à l'image d'ailleurs de ce qui se fait dans l'enseignement agricole, on rappelle qu'il y a des professeurs socio-éducatifs dans l'enseignement agricole, on pense qu'il devrait, on devrait d'abord forcer plus sur cette orientation-là, donc que des enseignants, tout enseignant confondu, participent à des projets éducatifs et culturels institués dans un établissement, c'est quelque chose qui nous semble important, et le point de vue du pacte républicain, c'est quelque chose d'important. Et puis le dernier point, je termine par celui-là, qui concernera d'ailleurs peut-être l'IFE aussi, c'est développer la formation des maîtres à l'enseignement professionnel. Ça veut dire qu'il faut que dans le cadre des futurs ESP, on prône, nous, qu'il y ait des modules proposés à tout professeur, qu'il enseigne ou pas, par la suite, d'enseignement professionnel, qui lui fasse découvrir ce qu'est l'enseignement professionnel, et qu'en même temps, sur les professeurs de spécialité et autres, il y ait aussi de la formation en continu là-dessus. Mais ce module dédié à l'enseignement professionnel dans chaque ESP, c'est quelque chose qui nous semble être inévitable par rapport aux ambitions affichées. Merci pour votre attention.